VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Mali, 3 soldats maliens tués ce jeudi dans une explosion de mine dans le centre du pays. Sur son site internet officiel, l'armée malienne annonce aujourd'hui que l'incident s'est produit dans le secteur de Boulkessi, région de Mopti, à la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan est de 3 morts et des blessés, indiquent les FAMA, les forces armées maliennes, sans donner d'autres précisions. Dans un précédent communiqué, les FAMA avaient le 21 décembre annoncé avoir tué 5 djihadistes et perdu un militaire en repoussant une attaque près du Niono, également dans le centre du pays. De vastes secteurs du Mali échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de la MINUSMA, la mission onusienne sur place, qui sont régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler les djihadistes qui opèrent dans le pays. Liberia, le secrétaire général de l'ONU et tous les observateurs saluent le bon déroulement général du second tour de la présidentielle dans le pays. Les Libériens, eux, continuent d'attendre dans le calme les résultats du scrutin qui a opposé George Weah, l'ex-star du football, au vice-président Joseph Boakai. Le point avec Eric Manirakiza.
La Commission électorale nationale prévoit de proclamer aujourd'hui les résultats provisoires, mais n'a pas donné d'horaire précis. Son président, Jérôme Korkoya, a appelé les deux candidats à ne pas crier victoire trop tôt, soulignant que seule son institution est autorisée à l'annoncer. Les premières tendances publiées par les radios locales donnaient en tête George Weah. Au micro de l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Moronvia, James Batty, l'ancienne étoile africaine du football et sénateur, a dit espérer gagner.
Aujourd'hui, je sais, je gagne. On attend, mais j'espère. Et je veux dire merci à tous, parce que ce n'était pas facile. Après le premier tour qui est passé, merci à tous, et joyeux Noël, et bonne année, en avance.
L'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, a salué un scrutin pacifique, transparent, libre et juste. La mission de la CDAO note avec satisfaction la tenue de son second tour. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de son côté appelé au respect de la volonté des électeurs, au transfert de pouvoir sans entrave et dans les délais constitutionnels le 22 janvier. Pour l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute, NDI, la réussite de cette présidentielle sera une victoire pour les Libériens, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile, le Liberia s'apprête à vivre sa première alternance démocratique entre un président élu et Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique.
Poursuite de la contestation au Togo, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Lomé hier pour une énième fois. Une énième manifestation contre le président fort Niasingbe et Edi Sango.
Comme les autres fois, la revendication des manifestants est restée la même. Des milliers de manifestants brandissaient des banderoles exigeant un retour à une limitation du nombre des mandats présidentiels et la démission du président fort Niasingbe. Les manifestants ont à nouveau répondu à l'appel de la coalition des 14 partis d'opposition qui mobilisent depuis septembre quasi hebdomadairement. Ils sont sortis dans la rue malgré l'annonce 10 jours plus tôt d'un dialogue entre les pouvoirs et l'opposition. L'opposition a posé des conditions pour les dialogues, parmi lesquelles la libération des manifestants en prison et les retraits des forces de sécurité déployées dans le nord du pays. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, parti historique de l'opposition, estime que la balle est dans les camps du régime. Le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, a, dans une interview au magazine Jeune Afrique, promis une réforme constitutionnelle pour l'avenir et non le passé. Les pays de la région appellent au dialogue, mais l'opposition promet de nouvelles manifestations aujourd'hui et samedi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RCA, le Premier ministre centrafricain Mathieu Simplice Sarandji a condamné ce jeudi les propos du chef de guerre Noureddin Adan, qui a traité mardi le président Faustin Archange Touadéra de criminel et menacé de marcher sur Bangui. Noureddin Adan déclare que le président Touadéra est un criminel, mais qui est plus criminel que qui, a lancé le Premier ministre Sarandji. Pour sa part, la MINUSCA, la force de l'ONU sur place depuis 2014, a déclaré qu'elle ne permettra pas que la paix et la stabilité du pays soient perturbées par qui que ce soit. Dans un communiqué, la MINUSCA ajoute que l'ONU demeure déterminée à appuyer les autorités pour prévenir toute tentative de mettre en péril les acquis de la restauration de l'autorité de l'État. Guinée équatoriale, une cinquantaine de militants du parti d'opposition Citoyen pour l'innovation sont détenus et une centaine d'autres réfugiés depuis plusieurs jours au siège du parti à Bata pour échapper à des arrestations nocturnes à leur domicile. Les détails avec Solange Nyamounissa.
Gabriel C. Obiang Obono, leader national de Citoyens pour l'innovation, a fait savoir qu'une cinquantaine des militants de son parti sont détenus à la prison d'Evinayong sur la partie continentale de Guinée équatoriale. Il accuse les autorités de maltraiter les femmes et les jeunes en leur confisquant leur carte de membre du parti, une pratique qui relève, selon lui, de la persécution politique. Pour sa part, Boniface Nguema, deuxième vice-secrétaire général de ces partis, affirme que plus de 100 militants, craignant d'être arrêtés, se sont réfugiés au siège du parti à Bata, la capitale économique, pour fuir les séquestrations. Le Parti citoyen pour l'innovation rapporte que les arrestations nocturnes de ces militants ont commencé peu après les élections générales du 1er novembre, où il a obtenu environ 5% de voix et un député, l'unique représentant de l'opposition sur les 100 parlementaires que compte l'Assemblée nationale équato-guinéenne.
Cameroun, Patrice Nganang, écrivain américain d'origine camerounaise, a été expulsé manu militari du pays hier vers les États-Unis. Après plus de 21 jours passés à la prison centrale de Yaoundé, il a bénéficié d'un abandon des poursuites contre lui. L'affaire Patrice Nganang a remis au premier plan de l'actualité la question de la double nationalité au Cameroun. Pour en parler, John Lindon a joint à Yaoundé le docteur Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile camerounaise, qui revient tout d'abord sur l'expulsion.
Il faut avoir une lecture contextuelle et une lecture conjoncturelle. Sur le plan contextuel, il faut noter que l'expulsion est une réaction d'un gouvernement acculé qui, toute honte vue, s'est trouvé obligé, comme ça, de libérer Patrice Nganang. Mais comme il ne pouvait pas le libérer simplement maintenant, du point de vue jurisprudentiel, il fallait trouver une formule pour que, effectivement, il perde la face. Ça, c'est sur le plan contextuel. Maintenant, par rapport à la conjoncture, il faut noter qu'on est à la veille des élections, d'une élection présidentielle et générale au Cameroun. Et il faut marquer le coup d'une certaine manière. Et malheureusement, sur ce plan-là, le gouvernement de Yaoundé, ça, M. Nganang, ouvre une boîte de Pandore qui risquera d'être difficile à gérer.
Et comment ?
Dans la mesure où un nombre important ou considérable des personnes qui occupent des hautes fonctions au Cameroun ont tout aussi la double nationalité, y compris la ministre du gouvernement de M. Diabol. Et donc, de ce point de vue, expulsé sous le simple prétexte qu'il a une double nationalité, avec éventuellement interdiction de séjour au Cameroun, supposerait qu'on pourrait appliquer la même peine pour M. Patrice Nganang. Deuxième élément, ce qui est important ici, c'est que le gouvernement ne semble pas avoir pris en considération la possibilité de la réciprocité qui pourrait être appliquée par les États-Unis d'Amérique.
L'arrestation et puis l'expulsion de Patrice Nganang remet au goût du jour la question de la double nationalité. Vous en parliez tout à l'heure. Que dit la loi à ce sujet?
Il est évident que la loi camerounaise, qui est une loi qui date d'une période assez particulière, c'est-à-dire au milieu des années 68, plus précisément, cette loi qui, clairement, que lorsque vous prenez une autre nationalité, vous devez perdre la nationalité camerounaise, de fait. Michel Hidjo, président de la République du Cameroun à l'époque, ne voulait donc pas que les exilés camerounais qui étaient partis du fait des lois d'exception puissent prétendre à la nationalité camerounaise. Mais il est évident aujourd'hui que si M. Biya est toujours au pouvoir, il a l'obligation courante, et le Kangana est un cas d'école. Le Kangana crée la jurisprudence qui aura Yaoundé à soit se départir des gens qui dirigent le Cameroun qui ont une nationalité, soit conformer sa législation à la réalité existentielle de son propre gouvernement.
Le docteur Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile au Cameroun. Il était au micro de John Lindon. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.